Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. On va parler des crèches. Est-ce que vous faites une crèche au pied de votre sapin? C'est une bien triste époque que la nôtre. Vous avez vu les marchés de Noël qui sont devenus au fil des ans des cibles pour les fous armés. Puis c'est pour ça que ce matin, on parle de crèches. Mais on a une bonne pensée pour tous les gens qui sont à Strasbourg. Vous avez entendu dans notre bulletin de nouvelles, 13 blessés, 3 morts surtout, au marché de Noël. Les gens qui ont été surpris par un tireur fou. Et en 2016, je me souviens, c'était à Berlin. Les marchés de Noël qui sont devenus la cible des terroristes, finalement. On va parler de crèche, nous, et de la symbolique de la crèche au pied du sapin avec Alain Pronkine, chroniqueur des affaires religieuses au 98.5. Merci d'être là, Alain.
Bonjour, Isabelle.
C'est surtout la fameuse crèche qui a fait un petit buzz au cours des derniers jours. Cette crèche qu'on a nommée hipster parce qu'on y voit des personnages revisités avec téléphone, selfie. Je pense que c'est Joseph qui fait un selfie avec Marie.
Marie qui fait un peace.
C'est ça, c'est drôle. Avec une petite, on voit sa brassière rouge qui dépasse de ça. C'est sûr que c'est autre chose.
Ouais. Ben, il y en a une avec les gilets jaunes en France en ce moment. Il ne faut pas oublier que la crèche, là, Isabelle, là, c'est 1000 ans d'évolution dans l'histoire de l'Église pour arriver à ce qu'on connaît, disons, de crèche classique. Mais la crèche demeure toujours d'actualité. Et c'est pour ça qu'on va, par des artistes modernes, essayer de la moderniser. Je peux utiliser l'expression moderniser, mais pour la garder vivante. Puis moi, quand j'ai vu celle avec les selfies, j'ai tout de suite pensé, est-ce que l'artiste dénonce notre société de selfie où on oublie la naissance d'un bébé ou encore, non, on fait quelque chose de festif, de joyeux pour faire rire les gens? Les deux sont possibles. Il s'agit toujours de voir comme spectateur qu'est-ce qu'on observe.
Moi, je trouve que c'est intéressant ce regard. Oui, plus nouveau, plus très actuel en tous les cas, qui va peut-être amener des jeunes à aller voir ça.
Et c'est essentiel.
C'est à l'Oratoire Saint-Joseph, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Oui. C'est parce que c'est 1000 ans d'évolution. La première crèche...
Oui, parle-nous de là. C'est qui la première?
La première crèche officielle, disons, c'est Saint-François d'Assise, qui l'a faite en 1223. Il avait même demandé la permission au pape. Parce qu'à cette époque-là, on faisait des représentations bibliques sur les parvis d'église. Et le pape n'était pas tellement content parce que des fois, on va le dire, là, ça déraillait. Donc, on mettait une obligation.
Ça déraillait, pourquoi?
Ah, bien, c'est qu'on allait avec toutes sortes d'interprétations de la Bible. Fait que les papes aiment conserver l'interprétation officielle. Alors, Saint François a écrit au pape lui demandant la permission de faire une crèche vivante. Et il a fait une crèche vivante avec l'âne et le bœuf. Par la suite, c'est plus vers les années 1300 où là, on a fait des figurines pour faire les personnages de la crèche. Mais les premiers 1000 ans, parce qu'on n'avait pas grand-chose, il y a deux évangélistes qui ont parlé de la naissance de Jésus. Il y a Luc, il a fait quand même avec assez de détails, et il y a Matthieu. Marc n'en parle pas, Jean n'en parle pas. Et par la suite, on a le protévangéliste, je sais, c'est un terme technique, de Jacques. Jacques a écrit la naissance de Jésus que l'on connaît avec l'étoile. Mais avant, l'étoile n'existe pas. Comme pour Luc...
Resitue-nous, parce que là...
OK. Tu as la naissance de Jésus. Dans les deux évangélistes
qui en parlent...
À Bethléem.
Puis là, avant ça, là, c'est la Genèse.
Hérode veut dénombrer le nombre de Juifs. Il veut éliminer
les petits-enfants. Il trouve qu'il y a trop de
Juifs.
Il veut éliminer les premiers-nés de chaque famille.
Les premiers-nés de chaque famille. Et là, Marie et Joseph se sauvent finalement, se réfugient jusqu'en Égypte. Mais la naissance de Jésus est à Bethléem. Et là, quand on regarde l'évangile de Matthieu parle de mages qui sont allés là. Il ne parle pas de roi mage. Et on a Luc qui parle de berger. Il ne parle même pas de mages, même pas de roi. Par la suite, on a voulu écrire ce récit-là, qu'on retrouve aussi dans le Coran. Hein? On oublie toujours que dans le Coran, on a la naissance de Jésus. Et là, il y a Saint-Jacques qui écrit dans les années 250 ou 300... la naissance avec l'étoile. Là, l'étoile
Il suivait l'étoile. L'étoile du berger les guidait jusqu'à Bethléem.
Et il ne parle pas encore de roi. Il est encore à des mages, lui, à cette époque-là. Par la suite, du 4e jusqu'à l'an 1000, c'est là où on va arriver avec des rois mages, avec Balthazar, Melchior, Gaspard. Après ça, on va les identifier. Balthazar vient d'Afrique. Où il y en a d'autres qui disent non, Balthazar, c'est le plus âgé des trois. Et là, on va construire... On va appeler ça la naissance qui est plus mythique, où là, on va rajouter l'âne, on va rajouter le bœuf, on va rajouter tous les personnages. Mais ça s'est fait sur 1000 ans. 1000 ans, moi, j'appelle ça de piété. Les gens disaient, ben c'est ce qui est arrivé. Et finalement, on a une représentation, et c'était une crèche vivante, par Saint-François dans les années 1223.
Où il y avait les rois mages aussi?
Là, je suis pas certain pour les rois mages. Je pense qu'ils n'étaient pas arrivés. Mais on avait l'âne puis on avait le bœuf. Ça, c'est certain. Puis on avait le petit Jésus. Ouais. On avait déjà un début. Et c'est Saint François qui prend le bébé dans ses mains et qui l'embrasse. C'est devenu. Ils en ont fait des peintures de ça, des icônes.
C'était le premier Papa Poule.
Oui, Papa Poule. Et par la suite, ben, on a eu tout le développement qu'on a. Et pour même, c'est tellement important que le pape émérite Benoît XVI parle de la naissance de Jésus, parle de Jésus, parle de cette époque-là. Il se demande, est-ce que Hérode a vraiment massacré les enfants, oui ou non? Et il se pose la question de cette construction-là. Et ce qui est important...
La part de vrai, la part de récit.
Oui, et ça, il fait la distinction parce qu'on oublie toujours, bon, on va critiquer Benoît XVI, on va critiquer le Joseph Ratzinger, mais c'est un érudit, c'est quelqu'un qui a une connaissance des choses.
Mais quelle est la part de vrai, justement, dans la nativité, dans l'histoire de Jésus?
Bien, ils disent... La question de la virginité.
Jésus nouveau-né, là, bien sûr.
Oui, Jésus nouveau-né. Et il va y aller sur cette naissance-là, mais il ne tranche pas. Il va dire, comme l'affaire d'Hérode. Hérode dit, bon, est-ce qu'il y a eu le massacre des enfants? Il va dire à la fin, on n'a pas de preuve que c'est arrivé. On n'a pas de preuve que ce n'est pas arrivé. On va se fier à l'Évangile. Benoît XVI...
Mais est-ce qu'il y a que l'Évangile qui parle de ça?
Ils vont parler de la fuite. En Égypte, à cause du massacre des enfants. Mais il y en a qui disent, regarde, quand Moïse est né, on l'a mis dans un petit Moïse, comme on dit.
Un petit panier.
Et le pharaon voulait tuer tous les enfants à cette époque-là. Et lui a survécu, il a été recueilli par la femme du pharaon et il a été élevé. Donc, on parle de naissance extraordinaire. Il y en a plusieurs qui disent, ben, on regarde les naissances extraordinaires. Et c'est ce qu'il fait Benoît XVI dans son livre.
C'est comme le sauveur. C'est comme le sauveur sauvé.
Oui, et la naissance.
C'est la même image.
Oui, extraordinaire. Puis là, il va parler des lignes. Est-ce que voici tous ces ascendants, c'est vraiment ces personnes-là, oui ou non? Est-ce que c'est symbolique? Et il fait ce travail-là, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, là, on utilise les deux noms. Et il va vraiment en détail là-dedans. Mais sur la naissance, pour lui, c'est quelque chose pas de mystère, mais ça rentre pas dans les mystères, mais c'est un événement fondateur.
Ouais.
Oui, fondateur. Mais il dit, ça ne doit pas rester dans des textes du passé. On doit l'actualiser par rapport à nos vies.
Donc, lui, il aurait aimé ça, une crèche avec Joseph et Marie qui se prennent en selfie.
Je ne sais pas s'il aurait aimé ça, mais... Et d'après moi, il ne l'aurait pas répudié. Il aurait dit, c'est une vision dans la modernité, parce que souvent, on oublie que les papes ne sont pas contre les artistes. Ils vont dire, l'artiste a le droit de s'exprimer. Ils vont dire, bon, on a des réserves là-dessus, mais l'artiste doit, parce que quel est le but recherché par l'artiste? Si c'est de nous faire réfléchir, ben, le but est atteint.
Mais je pense que c'est ce que ça fait.
C'est ce que
pas.
Ça fait.
Écoute, quel regard sur notre époque, quand même.
Ah, moi, je trouve ça fantastique. Quand j'ai vu
Moi, je vais aller la voir, puis je vais amener mes filles, parce que je trouve ça intéressant de voir ça. Là. Puis que tu sois croyant ou pas, c'est un regard sur l'époque.
Mais juste, bon, on est ici.
Hey, écoute, le musée a dû installer un avertissement pour dire aux gens, regardez, là, paniquez pas, là, on n'est pas en train de blasphémer. Ils disent... qu'est-ce qui est marqué? Ils disent, entre autres, peut-on lire? Alors, loin d'être... Cette crèche est destinée à nous faire sourire et à reconnaître que l'artiste illustre ici une scène moderne à partir d'un thème séculaire.
Oui.
Ça, c'est le panneau que vous pouvez lire à côté de la crèche.
Et des expositions de crèches, il y en a partout. Juste à New Carlisle, en Gaspésie, dans les petites chapelles, tu as des expositions de crèches à partir de coquillages que les marins ont fait de toutes les époques. Puis il y avait une chose qu'il faut toujours rappeler. N'oubliez pas, au Vatican, il y a toujours une crèche.
Vivante ou...
Là, elle est en sable cette année.
Ou un petit bonhomme de plâtre.
En sable cette année.
En sable?
Oui. Et... On oublie toujours le fameux sapin de Noël.
Oui.
Parce qu'on met toujours sa crèche sous le sapin de Noël.
Ouais. D'où ça vient, ça?
Le sapin de Noël, c'est une tradition protestante qui s'est tranquillement établie au Québec dans les années 1800. Et le clergé était contre.
C'est protestant.
Oui, c'est plus les protestants. Ouais. Et c'est en 1982 que le pape Jean-Paul II a fait installer le premier sapin au Vatican.
En quelle année, tu dis?
82, c'est Jean-Paul II.
Et
depuis 82, on a des sapins gigantesques au Vatican, des 30 mètres et plus, qui est là sur la place Saint-Pierre. C'est très récent, 82. Mais les gens au Québec ont toujours accepté le sapin de Noël depuis les années 1880.
Puis même partout en Europe, il y a des sapins, il me semble.
Oui, mais l'Église qui l'a vraiment accepté, pour moi, c'est Jean-Paul II, mais l'Église l'acceptait en pratique. Mais officiellement, en 82, les sapins géants...
Mais oui, on sait bien, l'Église est toujours en retard.
Mais il y a encore des cardinaux en Inde. Il y en a un qui dit non, il ne faut pas mettre de sapin de Noël.
Mais en Inde, je peux comprendre. Ils cherchent.
Ils cherchent le sapin. Mais on peut mettre des épinettes, on peut mettre des pins, mais c'est quand même récent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la nativité, l'histoire, c'est quelque chose d'évolutif. C'est pas quelque chose qui est destiné au passé.
As-tu déjà participé à une crèche vivante?
Personnellement, je n'ai pas participé.
Moi, j'ai déjà fait Marie dans une crèche vivante. Une jeune Marie, quand j'étais à la paroisse Saint-Alphonse-Diouville, à l'époque.
Ça, c'est à Rosemont, ça.
C'est à Hansic, mon cher ami. Hansic, ouais. C'est une magnifique église, hein, Saint-Alphonse-Diouville. Ouais,
mais j'ai assisté à plusieurs crèches vivantes, mais je n'ai pas participé.
C'est quelque chose, ça fait un petit effet.
Ouais.
Le costume et tout ça.
Mais je me souviens, dans le Vieux-Montréal, il y avait une vraie crèche vivante avec des...
basilique.
Il y avait un dromadaire, il y avait les animaux, il y avait une crèche. Mais c'était vraiment... pas à la basilique, c'était dans le Vieux-Montréal.
Ah oui?
Près de...
Sur la place, en face?
Oui, près du... Voyons, du fleuve Saint-Laurent. Vraiment quelque chose à voir. Je pense qu'on ne l'a fait plus. Mais la tradition de la crèche se perd, moi, je trouve.
Ben, ça allait être ma question. Tu penses que ça se perd?
Ben, souvent, quand on va dans les places publiques, je pense au marché de Noël de Longueuil, je pense qu'il n'y a pas de crèche en ce moment au marché. Ils vont dire au marché de Noël, ben, allez à l'église, il y en a une là. Mais les crèches, ce n'est pas juste destiné à être à Longueuil parce que c'est le signe des chrétiens, la crèche aussi.
Moi, je pense que tu avais dit qu'il y a un retour de la crèche en dessous du sapin.
Oui, ce que je veux dire, pas de retour, il y a un retour de la nécessité de mettre la crèche. Mais je ne suis pas certain qu'il est revenu parce qu'il y a plusieurs chaînes qui ne tenaient plus les crèches de Noël. C'est, il y a deux,
des
trois
chaînes
ans,
de magasins, tu veux dire?
Oui, il y a deux, trois ans, on a insisté pour que les grandes chaînes, je ne veux pas les nommer.
Mais c'est parce qu'on n'était plus capable de dire le maudit mot de Noël. C'est ça le problème.
Il y a
là.
Ça aussi. Bon, mais ça fait juste.
Sincèrement, on peut-tu se calmer avec ça? Là?
Mais ça fait juste deux, trois ans. Il y a eu des pressions en Angleterre.
Joyeux
il y a eu des
décembre,
ici.
Toi. Joyeux décembre, sérieusement.
Oui, joyeuse fête, joyeuse fête. Mais ça fait juste deux, trois ans. Mais est-ce qu'on va y assister parce que ça disparaissait? Moi, je l'avais noté pendant des années, ça disparaît. Puis il y a deux, trois ans.
Benoît Leroux, mon technicien, me dit joyeuse pause aussi. Ça, c'est un message. On vient tout de suite après. Dites-moi si vous avez une crèche en dessous de votre sapin et quelle est la symbolique pour vous de cette crèche-là, si vous en avez une. Avec l'équipe, on s'échangeait nos souvenirs de crèches d'enfants. Et c'est drôle comme que tu sois croyant ou pas, comme il y a une signification qui est beaucoup plus dans la tradition de la famille. Tu sais, souvent, c'est la crèche de ton père ou de ton grand-père ou de ta grand-mère et que tu vas mettre par habitude aussi parce que c'est un beau symbole. 514-790-9850 et vous faites le 1-866 avant le numéro pour nous joindre sans frais.
Sans berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie.
Comme les rois mages en Galilée, suivez les yeux l'étoile du berger. Je te suivrai où tu iras, j'irai, fidèle.
Ça, vous connaissez pas ça, hein, ma gang de Québécois? Non, certains! Ça, c'est un souvenir d'enfance en France. Écoute, j'étais petite, là, c'est Sheila qui chante comme les rois mages.
Mais c'est tellement une belle chanson.
Elle est cute, hein, quand
oui.
même.
Mais c'est pépé, c'est moderne.
C'est le fun,
c'est
non?
ça qui fait que oui, c'est oui. le fun.
Et je la connais par cœur. Okay. Bon,
oui, ça paraissait, oui, ça paraissait.
Je voulais pas imposer ça aux auditeurs, quand même. mais n'empêche que les rois mages, l'image des rois mages, tu disais tout à l'heure, Alain Pronkin, c'est arrivé par la suite. En fait, ça, c'est le bout un peu inventé. Il y a beaucoup de bouts inventés, quand même, dans l'histoire, mais bon.
C'est parce que quand on invente, c'est parce que on oublie toujours une chose essentielle. La tradition, voilà, il y a 2000 ans, c'est oral. On se transmet les histoires d'une façon orale. Et on doit se trouver des manières faciles de se transmettre. Et quand on crée des mythes, quand on crée des histoires avec les rois mages, ça se retient beaucoup plus facilement, puis les gens vont le retenir longtemps. Et c'est ça qui est le but de la tradition orale. Maintenant, on est sur le papier écrit, on est sur toutes sortes de plateformes, mais imagine, là, une journée, là, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de tablette. On fait quoi pour se souvenir de notre histoire?
Ouais, tout à fait.
Il faut avoir des mythes.
Tout à fait. On a Sylvien qui écrit, il dit qu'il est un fan de crèches. Il en fabrique à la main depuis quelques années. Il fait des belles crèches. Il me donne son numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler, Sylvain, 514-790-9850. On va parler à Denis Guérin tout de suite. Il est directeur commercial aux librairies Mediapol. Monsieur Guérin vend de magnifiques crèches. Et ça revient, il semble qu'il y a une espèce d'engouement, Monsieur Guérin.
Bonjour, oui, en effet, il y a un regain qui date probablement de 7-8 ans, peut-être avec aussi l'apparition de plus en plus de marchés de Noël, où vous aviez quelques artisans qui présentaient des modèles plus ou moins intéressants, mais en tout cas qui montraient véritablement une créativité. Et c'est vrai que nos librairies, qui avaient une présentation relativement modeste, assez classique, hein, de quelques crèches, ont été amenées à développer de plus en plus leurs propositions et aujourd'hui présentent jusqu'à 50 modèles par année.
Mais ça va de tous les prix, de 5 $ à 300 $.
Oh, même plus de 300 $ d'ailleurs. Oui, ça peut aller jusqu'à 1 000 $ pour certains modèles extrêmement raffinés.
Qui achète ça, M. Guérin?
Eh bien, je pense que c'est tout le monde, que ce soit des jeunes couples ou des personnes qui véritablement souhaitaient rappeler la tradition, parce que je crois qu'il y avait eu un petit peu une perte de ce sens de la tradition au profit de la consommation et du Père Noël, et on voit de plus en plus de grands-parents venir chercher une crèche pour montrer à leurs petits-enfants qu'il y a un message, que voilà, il y a la naissance de Jésus, c'est le signe de Noël, et donc ils souhaitent quand même qu'il y ait une approche un petit peu différente que simplement les cadeaux.
Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette crèche qu'on a appelée hipster à cause du selfie de Joseph de Marie?
Oui.
Qui est aussi, il y a des véhicules électriques, il y a des livreurs de boîtes Amazon, c'est vraiment très 2018 là.
Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est un clin d'œil extraordinaire. Naturellement, ça appartient à l'artiste de faire sa propre représentation. Donc, je la trouve, de ce point de vue-là, tout à fait légitime. Je comprends que des personnes se soient montrées un petit peu choquées. Mais c'est dans le cadre quand même du musée. Et puis, c'est au milieu de toute une proposition. Donc, pourquoi pas celle-là? Dans les crèches que nous proposons, nous avons, par exemple, une crèche inuite.
Oui, qui est magnifique.
Qui est absolument ravissante et qui d'ailleurs a inspiré notre maison d'édition à faire un album il y a quelques années qui s'appelle Noël, une nuit inoubliable, pour rendre justement ce message beaucoup plus universel. Et donc, situer l'action, entre guillemets, chez les Inuits, ça a tout à fait son sens également. Et on a fait un très beau succès avec cet album. Quelquefois, oui, nous avons eu des commentaires disant « attention, c'est pas la tradition ».
Exact. Mais,
il faut aussi penser que, tradition ne veut pas dire non plus se cantonner à une imagerie populaire qui ne bouge pas depuis deux siècles. On a vu tellement de visages de Marie avec des yeux bleus, une bouche en cœur.
Alors qu'elle ne va pas avoir cette allure-là, Marie. Là.
Non. Alors voilà, pourquoi pas une Marie bien contemporaine avec son café à la main.
Tout à fait. Il y a d'ailleurs une collection de crèches aussi de plus de 60 pays qui vont être exposées pour une deuxième année à la Maison de la Culture Mercier.
Oui.
Jusqu'au 13 janvier, c'est depuis la semaine dernière jusqu'au 13, l'entrée est gratuite, l'entrée est libre, c'est sur Hochelaga à Montréal. C'est intéressant de voir comment dans les autres pays également, on représente la nativité.
Absolument, et c'est d'ailleurs justement, on voit bien dans notre clientèle particulière, nous avons un certain nombre de collectionneurs. Ils sont à l'affût absolument de toutes nouvelles versions, qu'elles viennent d'Afrique, d'Amérique latine ou encore de l'Est et de l'Asie. Et donc, le message reste le magnifique, et donc c'est vraiment formidable de pouvoir voir toutes les propositions qui sont faites par ces artisans, ces artistes.
Tout à fait, on a
même en chocolat d'ailleurs.
J'ai vu ça. Canada Chocolat de Luc Fournier, chocolatier.
C'est ça.
On a Sophie avec nous. Bonjour, Sophie.
Bonjour, Isabelle.
Est-ce que vous avez une crèche sous votre sapin?
Nous avons toujours eu une crèche. Justement, je demandais toujours tantôt à votre collègue où est-ce qu'on pouvait aller trouver des nouvelles crèches parce que la mienne commence à être un peu brisée. Alors maintenant, j'ai une bonne adresse, alors c'est certain que je vais aller m'en chercher une nouvelle. Alors,
vous n'êtes pas en train de flusher votre crèche, là?
Non, je la garde toujours pareil, mais c'est parce qu'il y a des morceaux qui sont brisés, alors je vais essayer de remplacer quelques personnages.
Je dis ça parce qu'il y avait un drôle de bruit là qu'on entendait.
Ah non, je suis dans l'auto, c'est parce que je suis sur la route, moi, c'est pour ça. Alors, c'est peut-être ça que vous entendez.
Sans doute.
Alors, c'est sûr, quand nous étions jeunes, on mettait le petit Jésus qu'à la nuit de Noël.
Le 25.
Le 24 dans la nuit.
Dans la nuit, à minuit.
Puis, exact. Mais maintenant, j'ai encore une fille de 15 ans, dont deux, j'ai deux adultes aussi comme enfants. Mais celle de 15 ans, c'est encore elle qui déballe toujours la crèche pour la mettre sous l'arbre de Noël à chaque fois.
C'est chouette, hein? Donc, il y a une tradition là-dedans. Ouais.
Absolument, c'est une tradition, oui.
Merci, Sophie. On a Sylvain avec nous. Ah, ben c'est notre fabricant de crèche. Bonjour, Sylvain.
Oui, bonjour.
Donc, vous, vous en faites vous-même, là. Vous vous gossez de la crèche.
Oui, oui, je prends... Je vais sculpter des poutres, je vais monter une crèche. J'en rénove aussi, là, c'est pour quelqu'un. J'ai déjà rénové des crèches. Quelqu'un qui tient à sa crèche puis qui est défraîchi un peu, je peux très bien y rénover puis y donner un beau look, là.
Donc, c'est en bois, c'est comment?
Oui, c'est en bois. Je me sers des bâtons de popsicle. Je me sers des poutres d'un pouce par un pouce et moins. Puis c'est des poutres sculptées pour les vieillir, puis je les teins.
Wow.
Puis oui, je les monte.
Et ça vient d'où, cette passion pour la création
bon,
de crèches?
J'ai 4 ans, je suis au lac Saint-Jean, je suis avec ma mère et ma grand-mère, qui sont en train de fabriquer une crèche.
Mm-hmm.
Puis c'est de là que ça m'a... C'est de là que j'ai... Que ça m'a... Comment je pourrais expliquer, là? C'est venu me chercher, là.
Ah, okay? Ouais.
Je trouvais ça tellement beau, là, de voir faire une crèche pour quelque chose qui est... Pour moi, dans ce temps-là, c'était comme du fantastique, OK? C'était comme...
Pour l'enfant que vous étiez, il y avait quelque chose, là, de magique.
Ouais, oui, de magique, c'est ça, de magique. Le petit Jésus qui était là, je ne savais pas ce qu'il faisait dans sa vie.
Ouais.
Mais sauf que pour moi, c'était magique, les rois mages, les bergers, les moutons,
ouais.
C'est, l'étoile de Bethléem, c'était magique. Là.
Ouais. Merci
c'est
beaucoup.
Ça, ça m'est venu d'être là, j'ai commencé à faire des crèches, j'avais 12 ans, en carton, OK?
Ouais.
C'est ça, qu'on changeait ça à toutes les années, puis... Avec les années, maintenant, je suis à ma retraite, puis je fabrique des crèches, je fabrique des petites maisons en bois.
Ah
et en
bon.
Carton.
Est-ce que vous voulez donner vos coordonnées pour que s'il y a des gens qui sont intéressés?
J'ai un site, sylvaincormier.com.
Bon. Alors, si les gens veulent aller voir ça, sylvaincormier.com,
oui,
allez voir.
Oui, mon numéro de cellulaire est là, puis mon adresse courriel.
Et vous prenez des commandes?
Pardon?
Vous prenez des commandes?
Ben, j'en ai déjà de faites, j'en ai plein de faites.
Bon, parfait. Merci beaucoup, Sylvain. Merci bien.
Okay.
On doit terminer parce qu'on a... On a un invité qui vient nous voir tout de suite après, François Bellefeuille, l'humoriste, le gars le plus drôle en ville.
J'espère qu'il y a une crèche de Noël chez lui.
Je sais pas, on va lui demander. On va lui demander. Toi, as-tu une crèche?
Oui, elle s'appelle Chez Jésus. C'est Alexandre, mon gars, qui l'a fait quand il était au primaire. Là, il est rendu à 31 ans et on l'a toujours conservé. Peut-être qu'il va falloir la rénover un peu. Je vais peut-être voir avec M. Cormier.
Ben, écoute. Mais et vous, M. Guérin, avez-vous une crèche? Ben, vous en avez plein dans
bien
votre
sûr,
magasin,
oui,
mais
oui.
Votre crèche à vous?
Ah ben, moi, j'ai choisi la crèche Inuit parce que
elle
est venue me chercher à plein de niveaux, parce que je suis assez fasciné par cet univers-là, et c'est vrai que je trouvais que ça avait tout à fait son sens, voilà, et elle est ravissante, je la recommande.
Ah, oui, certainement. Moi, ma crèche, c'est une crèche de Santon de Provence, que j'avais
choisie avec
mon père à l'époque, quand on y était, en Provence.
Oui. Et là, c'est à l'infini, parce qu'on peut...
Ah ouais, il y a plein de petits personnages,
voilà,
qui sont en fait représentatifs des métiers, des artisans, des fermiers de l'époque. Merci beaucoup.
Des collaboratrices qui cherchent des modèles, elle voudrait beaucoup faire venir les Santons de Provence.
Ah, ben, c'est sûr.
Les coûts sont assez élevés, mais en tout cas, c'est certainement...
On ira vous voir à la librairie Médiapol.
Médiapol, voilà. Nous avons 3 succursales, une à Montréal, une à Québec et une à Sherbrooke.
Merci, M. Guérin.
Je vous en prie, bonne
Merci
journée.
Merci beaucoup, Alain Pronkine. Et à la demande générale, peux-tu croire? Moi, je pensais que j'étais la seule à connaître cette tune-là, comme les Rois Mages de Sheila. Puis il y a plein de monde qui la connaissent. Et qui... Alors, on va la chanter en attendant d'accueillir François Bellefeuille.
Comme les Rois Mages!